Ben oui, avec une ambiance comme ça, hein. Un homme l'a tombé, il faut l'éveiller là. Ça, c'est obligé qu'on soit en forme. Hein. Conseil et démaillage aujourd'hui avec toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. On va démarrer ce train avec ces auditeurs qui sont fidèles, hein, pour ceux qui nous rejoignent aussi. Eh bien, d'ici, hein, de La Réunion et d'ailleurs de Métropole, de Mayotte, etc., eh bien, on vous accueille avec toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel et Didier à la technique pour cette émission Conseil et démaillage. C'est le droit pour tous. Eh bien, Conseil et démaillage est une émission qui a été mise en place par la Radio Arc-en-Ciel, bien sûr, pour venir en aide aux personnes en difficulté nécessiteuses et également pour venir à vous apporter des informations juridiques sur vos droits d'une manière générale, hein, de la vie de tous les jours au quotidien. Et Conseil et démaillage est là aussi pour vous aider à faire vos lettres, vos dossiers, etc. Hein, d'ailleurs, jeudi dernier, j'ai parlé d'une auditrice qui est fidèle. Je la connais pas personnellement. Elle a donné son numéro de téléphone, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'appeler puisque son mail était tellement très clair. Je vous le lirai à la fin. Pas qu'un mail, c'est mail. Elle m'a envoyé 3 mails. Eh bien, c'est une auditrice qui écoute bien, surtout au niveau des impôts. D'ailleurs, sa question est très pertinente, hein. Je l'ai relevée pour vous, je l'ai retenue pour vous, parce que ça concerne d'autres personnes et qu'elle a posé la question par mail. Comme c'est très clair, je n'avais pas besoin de l'appeler pour avoir un complément d'information, mais au cas où, je l'aurais appelée. Et en tout cas, elle a envoyé toutes les informations qu'il faut. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. Hein, j'enchaîne, comme ça, on va gagner du temps. Nous allons parler encore des impôts sur le revenu, puisque nous sommes dans le temps de déclaration d'impôts. Il y a des questions qui reviennent. Eh bien, je vous ai parlé jeudi dernier de la case T pour les personnes qui vivent seules avec leurs enfants, les monoparentales. D'accord, les monoparentales. Eh bien, les personnes qui vivent seules, et il y a, je vous avais dit de cocher la case T. Eh bien, il y a des pièges à éviter d'ailleurs, et je vous donnerai un petit peu les détails pour que vous ne fassiez pas automatiquement ce que je dis, quoi. En fait, Conseil des Maillages vous donne des conseils et vous donne aussi des explications pour que c'est pas parce que je dis qu'on doit le croire forcément, mais je vous donne les détails, comme ça je vous donne les références, comme ça vous êtes sûr de ce que Conseil des Maillages vous donne comme conseil. D'accord? Nous allons parler de garde d'enfants, frais de scolarisation et pension. Quelles sont les aides fiscales liées à la famille? Je vais vous le donner, puisque la question de notre auditrice touche un peu à ça. Mais elle, pour elle, ce n'est pas de garde d'enfants, ce n'est pas de frais de scolarisation. Mais j'insiste, puisque jeudi dernier, j'en ai parlé. Et je reparle encore, puisqu'après, votre revenu fiscal de référence est très important. C'est pour ça que je vous conseille de remplir bien votre fiche d'imposition, hein, votre déclaration d'impôt, pour que votre revenu fiscal baisse. Puisque j'ai entendu parler beaucoup, il y en a qui m'ont interrogé d'ailleurs, sur les complémentaires santé solidaire. Entre autres, puisque tout ce qu'on vous donne, on vous octroie, on vous donne comme aide, d'une manière générale, on demande toujours le revenu fiscal de référence. Et si votre revenu fiscal de référence dépasse d'un petit chouïa du montant qui a été fixé, eh bien, pour la complémentaire santé solidaire, ben vous payez. Tandis que si ça ne dépasse pas, eh bien, vous ne payez rien. D'accord? Je vais vous expliquer dans un instant. On va parler du bénéfice du service d'avance immédiate du crédit d'impôt. Mais ça, je vous le dis tout de suite, mais je ne développe pas. Embaucher un salarié à domicile vous permet de bénéficier d'un crédit d'impôt. Grâce à l'avance immédiate, vous pouvez directement déduire ce crédit. Vous ne réglez que 50% des sommes à payer. Ça, si vous embauchez un salarié à votre domicile. Là, je vous le dis, mais je ne développerai plus ce sujet. D'accord? Il y a un décret paru dimanche 21 avril 2024, officialise une annonce du gouvernement. Tu vois, vous voyez, 21 avril et nous sommes le 25, hein, d'accord? Eh bien, il y a un décret qui est paru le 21 avril 2024 qui officialise une annonce du gouvernement au sujet des aides sociales en France. À partir de 2025, les conditions pour bénéficier des prestations familiales et du minimum vieillesse vont ainsi se durcir. Je vais vous développer tout ça tout à l'heure. L'aidant familial, qu'on dit aussi proche aidant, aidant naturel. Après l'émission de jeudi dernier, il y a une auditrice qui m'a téléphoné. D'ailleurs, elle devait m'envoyer sa question par mail, mais c'est pas grave, elle a eu le temps de me le dire au téléphone. Sauf c'est resté confus, puisque j'ai pas bien compris sa question. Elle voulait savoir si elle avait la possibilité d'être aidant familial, sa maman touche l'APA. Je crois que c'est ça. Hein. Je vais vous développer comme ça, elle va trouver sa réponse là-dedans. Et si toutefois, elle n'a pas trouvé sa réponse, soit elle me renvoie un mail, soit elle me rappelle ou elle m'envoie un texto. Hein, si elle veut pas faire de mail, elle ne peut pas, elle n'a pas la possibilité de faire, eh bien, elle m'envoie un texto. Alors, question des auditeurs, c'est j'aimerais savoir, par mail ça, j'aimerais savoir la ligne pour mettre le montant de ma fille de plus de 25 euros en études. Je paie des dépenses de plus de 25 000 euros par an. Alors, elle nous a envoyé un petit mail pour ça, pour nous questionner. Et je vais lui répondre ce qu'elle nous a demandé, hein, d'accord ? Il y a une autre qui a, ben justement, qui m'a questionné par téléphone. Ma mère perçoit l'APA ou PCH. Peut-on l'utiliser pour payer un salarié ou un aidant familial ? Alors, je vais vous donner un petit peu les détails. Hein, et qui paye quoi ? La complémentaire santé solidaire. Qui peut en bénéficier et comment ? Hein ? Le CSS. La complémentaire santé solidaire. Avant, docteur de chèque santé, comme là, il dit plus chèque santé, là, comme là, il dit complémentaire santé solidaire. Depuis 2017, Conseil des Mayas, la sonne des cloches, l'a dit, ça va changer, quoi il va se passer, quoi il va faire. Il dit, Conseil des Mayas, j'ai déjà tous les textes pour dire aux autres quoi il change. Maintenant, là, ça fait longtemps, les changer. Et puis après, les gens, ils sont embêtés, ils n'ont plus d'aide en santé, et donc ils s'étonnent. Mais parce que il y a des démarches à faire pour la complémentaire santé solidaire. Je vous dirai deux mots là-dessus. Nous allons parler de l'ASPA et pension de retraite. Peuvent-être elles cumulées ? Peut-on les cumuler ? Par exemple, est-ce que quelqu'un qui a l'ASPA, il peut toucher aussi la retraite, la pension retraite ? D'accord ? Eh bien, tout ça, ça va être développé dans quelques instants. Si vous avez de quoi noter, laissez à côté de vous. Comme ça, si je dis quelque chose qui vous intéresse, eh bien, vous notez. Vous avez la possibilité aussi ben de noter aussi les numéros de téléphone. Le jeudi dernier, je vous avais dit que j'allais vous donner le numéro de portable de Conseil des Maillages à la fin de l'émission et j'ai pas eu le temps, donc je vous le donnerai après l'émission, promis juré. Alors, adresse email, c'est conseil@radioarc-en-ciel.re et le téléphone fixe 02 62 41 66 16. Le portable, bien sûr, je vous donne à la fin puisque je suis en direct. Nous avons aussi une adresse postale, 18 bis rue Montreuil, 97 400 Saint-Denis. Voilà pour ce qui est de l'annonce et la présentation de notre conseil des maillages de droit pour tous. Tout le monde a son billet, tout le monde est dans le train. Eh bien, voilà, je fais un clin d'œil à tous et puis on dit, on y va. Gardez la pêche avec moi et nous allons vous donner les détails dans quelques instants.
En rivière du Mar, qui va me ramener chez moi. J'ai plus où sont mes clés, je vais la boucler parce que je suis saoulé. Maya, Maya l'abeille, elle vient avec ses copines chercher le miel.
Attention, il y a la guêpe. À la une, à la deux, à la trois, on ne bouge plus.
Vaille vibrer les boîtes en vous.
Où je passe, sinon ma jette au pic. Ma jette au pic. Où je passe, sinon ma jette au pic. Ma jette au pic. Où je passe, sinon ma jette au pic. Ma jette au pic. Où je passe, sinon ma jette au pic. Ma jette au pic.
Touché, touché par le vœu. Mais si tu bouges, c'est sûr que tu reviens de main.
On aborde la porte, on fait l'effort. On connaît c'est le bout de fort, comme il est à bord.
Adia, c'est là, où se connaît le mot, c'est là. Mais ça touche à où, ça peut dire matos, c'est là.
Ne fais pas guilig-guilig, mais les pics s'en barrent. Chape les mailles ou les pics, trop tard.
Maya, Maya l'abeille. Elle vient avec ses copines chercher le miel.
Attention, il y a la guêpe. À la une, à
là là. Bon, ben, je pense à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui aiment bien cette chanson-là. Et puis, en plus, j'ai trois auditrices de l'Ouest. J'espère qu'elles sont à l'écoute, puisque je vais parler d'un point sur lequel elles s'étaient interrogées, ou du moins j'attire son attention là-dessus, c'est sur les aides apportées aux enfants qui sont hors foyer. Voilà, en fait, c'est la question de notre auditrice qui m'a amenée à redonner des précisions là-dessus. Hein. Ben, désolée, nous sommes dans les... Désolée, ou tant mieux pour vous, hein, je ne sais pas, mais on est dans le temps des impôts et je suis obligée de revenir là-dessus, notamment pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les pièges à éviter de la case D. Parce que ce n'est pas parce que je dis quelque chose que je ne reviens pas dessus, je reviens dessus pour que je vous dise ce qu'il faut faire. Alors, les parents isolés ont le droit à un coup de pouce de la part du fisc pour payer moins d'impôts sur le revenu. Mais pour en profiter, je vous donne les conditions à respecter. Les personnes qui vivent seules, avec au moins un enfant à charge ou rattaché sur la déclaration de revenus, peuvent cocher la case T, parents isolés. Comme tout dispositif permettant de réduire l'impôt, cette case est assortie de conditions strictes. Diazote sévère, strictes, diazote les sévères. Mieux vaut les vérifier avant de le cocher. Et c'est pour ça, quand je dis cocher la case T, des parents, pour les parents isolés avec à charge des enfants rattachés sur la déclaration, vous allez voir qu'il y a des avantages des enfants être rattachés à leurs parents et d'autres avantages que je vais donner tout à l'heure, notamment pour ce qui concerne la réponse à la question de notre auditrice. Eh bien, quand c'est pas rattaché au foyer, il y a aussi des avantages. D'accord? Comme tout dispositif permettant de réduire l'impôt, eh bien, cette case est assorti de conditions. C'est quoi vivre seul? Vivre seul répond à une définition précise. Ce n'est pas le cas lorsqu'il y a concubinage. Sauf si vous cohabitez avec un parent, par exemple un père, une mère, un frère, une sœur. Il ne doit y avoir aucune personne dans votre habitation, autre que vous-même. Vos personnes à charge ou rattachées, ou bien encore une personne invalide recueillie sous votre toit. Cette situation s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition, sauf en cas de changement de situation de famille, mariage, le pacte, le divorce, la séparation. Dans ce cas, l'impôt est calculé d'après votre situation familiale le 31 décembre. En l'espèce, pour la déclaration à faire d'ici le 6 juin au plus tard sur vos revenus 2023, c'est la situation au 31 décembre 2023, 6 juin plus tard pour certaines zones. Hein. J'ai déjà donné la date. Hein. C'est la situation au 31 décembre 2023 qui s'applique. Le cas de l'absence momentanée de cohabitation. Attention, vous ne pouvez pas déclarer vivre seul au 1er janvier si vous vivez en concubinage avec la personne avant et après cette date. Allez pas jouer le malin. Allez pas dire que Missa a déclaré que moi t'es vivre seul le 1er janvier, mais après m'y revive pas seul le mois d'avril. Les impôts, ils laissent pas ça filer. Hein. La condition de vivre seul ne peut pas être satisfaite par une absence momentanée de cohabitation pour des motifs ponctuels comme des vacances, déplacements professionnels, etc. Il est fréquent de se trouver en situation de parents isolés après un divorce ou une séparation. Dans ce cas, si les deux parents continuent de pourvoir aux besoins de l'enfant, eh bien, pas évident de savoir si l'on est isolé ou non aux yeux des administrations. En cas de résidence alternée, la réponse est oui. Chaque parent peut se déclarer parent isolé, même si l'enfant est en résidence alternée. La seule subtilité est que l'avantage procuré dans la case T est alors réparti entre les deux parents. Si l'enfant est en garde exclusive ou principale chez l'un des deux parents et que l'autre verse une pension alimentaire, celui qui a l'enfant à charge peut se prévaloir de la situation de parent isolé. Il doit cependant déclarer la pension alimentaire perçue. Alors, quel effet sur le calcul de l'impôt? Ben, si vous cochez la case D, ce qu'oublie de faire certains contribuables octroie une demi-part supplémentaire en plus de la demi-part par enfant. Voyez? Un coup de pouce certain pour réduire le montant d'impôt à verser. L'avantage est cependant limité à 4 149 € pour la part accordée aux parents isolés qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants au titre du premier enfant en charge. Dans le cas d'un enfant en résidence alternée, l'avantage est d'un quart de part s'il n'y a qu'un seul enfant en résidence alternée. S'il y a au moins deux, la case T octroie une demi-part. Dans ce cas, l'avantage en impôt procuré par la demi-part attribuée pour chacun des deux premiers enfants, 0,25 pour l'enfant et 0,25 pour la case T, eh bien, excédant une part est limité à 4 149 € sur deux. C'est ce qu'explique la brochure 2023 de la déclaration de revenus, déclaration sur le revenu. Alors, il y a des gens, quand j'explique des fois, je rencontre ici et là des gens qui me posent des questions, eh bien, ils me disent non, c'est pas comme ça, non, c'est pas. Ben, moi, quand on dit non, c'est pas comme ça, je laisse faire. Mais en tout cas, dans Conseil et Démaillage, eh bien, je dis ce qui est à faire. Alors, cette fraude qui est souvent utilisée pour maximiser les aides accordées par la caisse d'allocation familiale aux parents isolés est particulièrement traquée grâce au rapprochement d'informations entre les différentes administrations, ce que l'on appelle le data mining. Data mining. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils se donnent des informations entre eux, entre administrations. Alors, attention, hein, faut pas déclarer, si vous n'êtes pas parent isolé, n'allez pas le faire. La case V plutôt que la case D. Si vous ne réunissez pas les conditions pour cocher la case D, vous allez me dire, c'est quoi cocher les cases, m'y paye pas impôts, donc m'a pas besoin de. Mais si, ma fille diazote pour gagner toutes affaires, bonnes affaires allocation familiale, bonnes affaires l'aide au logement, bonnes affaires l'aide pour la santé, tout ça, il relève du revenu fiscal de référence, même si vous ne payez pas d'impôts. D'accord? Les veuves ou veufs ne peuvent pas prétendre à la case D. En effet, s'ils ont des personnes à charge ou rattachées, ils bénéficient du même nombre de parts qu'un couple marié paxé, quand le même nombre de personnes à charge. Ce qui est plus favorable. Dans ce cas-là, cochez la case V. Si vous êtes veuf ou veuve, vous cochez la case V. Par ailleurs, si vous êtes seul avec des enfants en résidence alternée, mais également avec des enfants en résidence principale ou exclusive, ou des personnes invalides, ou des enfants majeurs célibataires rattachés, la majoration du quotient familial liée à la case T est de 0,5 part. Dans tous les cas, méfiez-vous des fausses déclarations. Le fisc veille au grain, notamment quand deux concubins déclarent leurs revenus à la même adresse, alors que l'un d'eux a coché la case D. Pareil, quand l'un des conjoints se domicilie à une autre adresse, alors que les deux vivent sous le même toit. Attention. Donc, voilà pour ce qui est de cocher la case D ou la case V. Si vous n'avez pas bien compris, conseil@radioarc-en-ciel.re ou alors vous m'envoyez un petit texto, conseil@radioarc-en-ciel.re. Le deuxième point de notre émission est toujours sur cette histoire de garde d'enfants. Hein, des gardes d'enfants, les frais de scolarisation, pension. Alors, donc, pour ce qui concerne, si vous faites garder votre enfant à domicile, il est possible de bénéficier d'un autre crédit d'impôt pour les sommes versées à ce titre, crédit d'impôt pour l'emploi de salariés à domicile. Les dépenses engagées pour la garde et la scolarisation de vos enfants ou le versement de pension alimentaire ouvrent droit à des avantages fiscaux. Parce que tout à l'heure, je parlais comment faire quand on vit seul, etc., la case T, la case V. Eh bien là, il faut faire attention, puisque vous avez aussi la possibilité de déduire, vous avez des crédits d'impôt pour les frais de garde d'enfants. Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu si vous faites garder vos jeunes enfants hors de votre domicile. Quelles sont les conditions? Eh bien, pour prétendre à cette aide fiscale, votre enfant doit être compté à votre charge, avoir moins de 6 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, être gardé dans un établissement d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, crèche, halte-garderie, garderie, ou par un assistant maternel agréé. Le montant, Le montant du crédit d'impôt est de 50% du montant des dépenses supportées pour la garde dans la limite d'un plafond de 3 500 euros par enfant gardé. Soit un crédit d'impôt maximum à 1 700 euros. En cas de résidence alternée, eh bien, ou de garde partagée, ce montant est de 1 700 euros par parent, soit un crédit d'impôt maximum de 875 euros. Alors, les dépenses prises en compte. Les dépenses prises en compte sont les salaires et les cotisations salariales versées pour la garde. Attention, les frais de nourriture ne sont pas inclus, ils ne rentrent pas dans la ligne de compte. Et les aides versées par la CAF, eh bien, comme le complément de libre choix du mode de garde, etc., et par l'employeur, doivent être déduites. Alors, le versement de l'acompte, comment déclarer, ça vous l'avez sur votre impots.gouv.fr. Par contre, pour ce qui concerne les conditions pour bénéficier de ce que votre enfant a droit, une réduction d'impôt pour frais de scolarisation. Une réduction d'impôt sur le revenu peut être accordée si votre enfant est scolarisé ou poursuit des études supérieures. Ben, quelles sont les conditions pour en bénéficier? Votre enfant doit être à charge ou, s'il est majeur, être rattaché à votre foyer fiscal. Alors, je vous parle toujours de rattaché, mais après, je vais vous donner dans un instant les avantages ou les inconvénients de cette histoire de rattaché. Mais là, de toute façon, il n'y a pas le choix. Quand les enfants vont encore à l'école en bas âge, ils sont rattachés. Poursuivre des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition. Ne pas être lié par un contrat de travail et ne pas être rémunéré. L'enfant peut toutefois être boursier et recevoir des indemnités au cours de stages obligatoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les études peuvent être suivies dans un établissement public ou privé. Les cours suivis par correspondance permettent de bénéficier de la réduction s'il s'agit d'une formation initiale suivie par l'intermédiaire du Centre national d'enseignement à distance, le CNED, vous connaissez. Alors, le montant de la réduction d'impôt varie selon le cycle d'enseignement. Si votre enfant va au collège, c'est 61 euros. S'il va au lycée, c'est 153 euros. Et s'il va en enseignement supérieur, c'est 183 euros. Notez qu'en cas d'enfant en résidence alternée ou à charge partagée, le montant de la réduction d'impôt est divisé par deux. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais 61 euros, c'est rien. Ben non, c'est pas rien. Des fois, 10 euros vous fait baisser de tranche et vous fait sauter et joue sur votre revenu fiscal de référence. D'accord? Alors, le versement, la réduction d'impôt pour frais de scolarisation des enfants ne donne pas lieu au versement d'un acompte en janvier. Elle vous sera donc restituée en intégralité dès l'été, sur la base des éléments renseignés sur votre déclaration annuelle de revenus. Voilà, donc, pour ce qui concerne maintenant, donc, il faut quand même savoir que la pension alimentaire versée à un parent ou à un grand-parent est déductible aussi des impôts. Hein. Donc, si vous versez une pension alimentaire ou du moins vous donnez de l'argent pour aider à subvenir aux besoins de vos parents ou grands-parents, c'est déductible des impôts. Et enfin, si vous faites garder votre enfant à domicile, ça je vous l'ai dit, il est possible de bénéficier d'un autre crédit d'impôt pour les sommes versées à ce titre, le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Voilà, là, je vous ai donné un peu les détails de ce que vous pouvez déduire pour ce qui concerne les enfants rattachés au foyer. Tout à l'heure, dans la réponse à la question de notre auditrice, ben, je vous parlerai des enfants qui ne sont pas rattachés au foyer.
Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi, quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, Elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle.
Bon, voilà, nous allons passer au point 4. Un décret paru dimanche 21 avril 2024 qui officialise une annonce du gouvernement au sujet des aides sociales en France. À partir de 2025, les conditions pour bénéficier des prestations familiales et du minimum vieillesse vont ainsi se durcir. Minimum vieillesse, c'est quoi? C'est des conditions de ressources inchangées. Voilà pour le minimum vieillesse. Mais si vous êtes âgé d'au moins 65 ans, 62 ans, si vous êtes reconnu inapte au travail et si vous bénéficiez d'une retraite anticipée pour inaptitude, d'accord? Si vous êtes âgé d'au moins 65 ans, si vous êtes valide, si vous n'avez aucun problème, vous êtes âgé au moins de 65 ans, vous faites votre demande de retraite et si vous n'avez pas suffisamment d'argent, si vous touchez trop peu, eh bien là, vous demandez l'ASPA, hein, minimum vieillesse. 62 ans si vous êtes reconnu inapte au travail. Et si vous bénéficiez d'une retraite anticipée pour inaptitude et que vos ressources n'excèdent pas un certain plafond, vous pouvez prétendre, voyez, là je reparle encore, là, hein, que vos ressources n'excèdent pas un certain plafond. Voyez, à chaque fois on revient, quand vous avez des aides, on vous parle de plafond. Plafond c'est quoi? C'est justement ce qui est fixé pour ne pas dépasser et qu'on va prendre en référence votre revenu fiscal de référence. D'accord? Eh bien, si vos ressources n'excèdent pas un certain plafond, vous pouvez prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. Il s'agit de ce que l'on appelait avant, il y a quelques années, le minimum vieillesse. Les montants de cette aide sont revalorisés chaque année. C'est ce qu'explique le site du service public. Au 1er janvier 2024, l'ASPA a donc enregistré une hausse de 5,3%. Une personne seule peut prétendre à 1 012,02 € par mois, si ses ressources de l'année ne dépassent pas les 12 144,27 €. Par exemple, quand il a déclaré ses impôts, eh bien, cette année-là, il a comme revenu fiscal de référence 12 144,27 €. Eh bien, il ne faut pas qu'il dépasse ça. S'il a fait 12 144,28 € pour 1 euro, allez, hop, licence de 30, il ne peut pas bénéficier. D'accord? Alors que si vous avez 12 144,27 €, admettons, vous faites votre simulation d'impôt, mais bon, voilà, hein, on peut arriver à comme ça, eh bien, vous faites un petit don ou quelque chose comme ça, ou vous aidez quelqu'un de votre famille ou quoi, c'est déduit. Et à ce moment-là, vous êtes en dessous de la tranche, d'accord? Pour un couple, le montant s'élève à 1 571,16 € par mois. Si vous êtes à deux, un couple alors, dans votre foyer, vous touchez 1 571,16 € par mois si votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas 18 854 € par an. Alors, quelles sont les nouvelles conditions pour obtenir l'ASPA? C'est quoi la nouveauté dans ce décret du 21 avril là? Eh bien, selon le nouveau décret publié au journal officiel, il faudra avoir résidé dans le pays pendant plus de 9 mois au cours de l'année civile de versement. En fait, ça concerne particulièrement tous ceux qui ne sont pas français, qui n'habitent pas en France. Pour la plupart des aides sociales, les règles sont actuellement de séjourner en France au moins la moitié de l'année écoulée, soit 6 mois. Eh bien, le gouvernement avait annoncé en 2023 son intention de porter à 9 mois ce délai dans le cadre d'un vaste plan de lutte contre la fraude sociale. Voyez, j'avais parlé de cette loi il y a quelque temps là. Hein? Eh bien là, il y a un décret qui a été appliqué par rapport à ça. Eh bien, la nouvelle réglementation concerne donc l'ASPA, mais également d'autres aides comme les allocations familiales et la prime de naissance d'un enfant. En revanche, elle n'est pas prise en compte dans l'attribution de la protection universelle maladie, la PUMa, héritière de la couverture maladie universelle. Eh bien, ce décret du 19 avril 2024 relatif à la condition de stabilité de la résidence pour le bénéfice des prestations familiales, les publics concernés sont les personnes relevant des régimes obligatoires de sécurité sociale et qui résident en France de manière stable et régulière. Les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires ce sont les personnes concernées. Eh bien, l'objet de ce décret, comme je vous l'ai dit, c'est une condition de stabilité de séjour pour l'ouverture des droits aux prestations familiales par les régimes de sécurité sociale. Et ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2025. Bien que ce décret soit paru le 21 avril 2024, eh bien, il est officiel, mais seulement il prendra effet au 1er janvier 2025. Voilà pour ce qui est de ce point 4. L'aidant familial, qu'on dit aussi proche aidant et aidant naturel. Quelle est la différence entre un aidant familial et un aidant naturel? C'est l'article R245-7 du Code de l'action sociale et des familles qui précise la définition du statut de l'aidant familial de la personne handicapée. Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L245-12, eh bien le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au quatrième degré du bénéficiaire ou l'ascendant, descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions du présent code. Eh bien, ça concerne l'aidant familial. Et l'aidant naturel, c'est défini par l'article L1111-6-1 du Code de la santé publique. Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, c'est-à-dire que les gars n'ont plus fait son travail comme il faut, eh bien, si du fait de la limitation fonctionnelle des membres supérieurs des liens avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser. D'accord? Eh bien, vous l'avez bien compris, allons baiser un petit coup créole, là. Alors donc, là, pour dire comme ça que si il y a une personne dans votre entourage, votre famille ou bien votre mari ou bien votre femme, eh bien que vous n'avez plus fait une affaire et que vous êtes limité par une maladie, la handicap à vous, d'accord, la rendre la possibilité pour vous d'accomplir vous-même vos besoins, par exemple, au garde de vos médicaments, aller trapper s'il fait ça, etc. Eh bien, vous pouvez avoir affaire à un aidant naturel. Midi mon créole, la première vient français. Bon, enfin bref, c'est pour pouvoir l'expliquer comme il faut. La personne handicapée et les personnes désignées perçoivent préalablement de la part d'un professionnel de santé une éducation et un apprentissage adapté leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, eh bien, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier. Les conditions d'application du décret du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. C'est-à-dire que cet article du Code de la santé publique que je vous dis, il y a un décret qui explique comment l'appliquer, cet article-là. D'accord? En cas de besoin, conseil@radioarc-en-ciel.re. Bien sûr, je ne vais pas vous demander d'aller décortiquer cet article, hein. Conseil des maillages est là pour vous donner cette information. Alors donc, mais là, je vous fais la différence entre aidant familial et proche aidant. Mais l'aidant familial, lui, il veut bien être proche aidant. Et quelle définition et quelles aides? Qu'est-ce qu'un aidant familial? Les aides pour les proches aidants. Eh bien, un aidant familial, selon la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées rend officielle la place et le rôle des aidants familiaux. Eh bien, à titre d'exemple, un aidant familial d'une personne en situation de handicap qui apporte une aide humaine à son proche bénéficie de l'aide accordée par le PCH, prestation de compensation du handicap, peut percevoir un dédommagement. La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société du vieillissement définit la notion de proche aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie en l'élargissant à l'entourage. C'est-à-dire que si la personne est en perte d'autonomie, ça c'est assez récent, c'est de décembre 2015. Ça peut être un voisin, ça peut être un ami. Il s'agit du conjoint, du partenaire avec qui la personne âgée est en perte d'autonomie, d'un parent, etc. Eh bien, les aides du proche aidant. Quelles sont ces aides? L'allocation journalière du proche aidant. L'allocation journalière du proche aidant est un revenu de remplacement qui s'adresse au proche aidant d'une personne en situation de handicap ou de perte d'autonomie. C'est-à-dire qu'il est malade, il commence à gagner plus faire son bon travail, son bon manger, son bon affaire. Eh bien, qui réduit ou bien cesse son activité professionnelle pour aider cette personne, si la personne qui aide cette personne qui est en perte d'autonomie, il est inscrit à Pôle emploi et il rentre plus travail et il ne gagne plus l'allocation, eh bien lui ou elle, cette personne, eh bien depuis le 1er janvier 2023, le montant journalier de l'allocation journalière du proche aidant est fixé à 62,44 euros. Journalière, par jour, 62,44 euros. Eh bien, si vous voulez savoir plus, est-ce que vous avez de quoi noter? Vous allez sur le site l'allocation journalière du proche aidant et vous demandez qu'est-ce que c'est. On va vous expliquer sur le site, mais allez sur un site officiel, d'accord? Sinon, vous allez dans un service qui vous sont dédiés, hein, les services publics qui vont vous aider. Alors, vous avez aussi pour les proches aidants l'aide au répit. L'aide au répit permet aux proches aidants des personnes âgées, ceux qui bénéficient de l'APA, hein, aide personnalisée autonomie, de se reposer ou de dégager du temps en finançant des solutions d'aide, comme un accueil de jour, un hébergement temporaire ou bien un relais domicile. Vous avez les aides fiscales. Les aidants peuvent bénéficier d'aides fiscales s'ils hébergent durablement leurs proches âgés chez eux, s'ils participent à ces frais d'hébergement en EHPAD. Hein. Eh bien, vous pouvez aller aussi également aller chercher sur les sites internet officiels quelles sont les aides pour les aides fiscales pour les aidants. D'accord ? Alors, être rémunéré en tant que proche aidant. Il est possible d'être rémunéré vis des autres de les payer, pour l'aide apportée à un proche âgé en perte d'autonomie en devenant son salarié. En effet, la loi l'autorise, une personne bénéficiaire de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie. Là, je ne sais pas si la question qui m'a été posée par téléphone par cette personne, si je réponds à sa question, mais sinon, je reviendrai vers elle ou elle-même me renvoie un texto qu'elle n'a pas compris. Eh bien, en effet, la loi autorise une personne bénéficiaire de l'APA à employer un membre de sa famille, à l'exception du conjoint, on parle d'employé là, concubin ou partenaire PACS, en tant qu'aide à domicile dans le cadre de l'APA qui lui est accordé. L'APA permet ainsi de rémunérer le membre de la famille qu'elle salarie, c'est-à-dire il vient son salarié. D'accord. Mais attention, hein, faire ça, il faut avoir la possibilité de faire des fiches de paie, de suivre les déclarations, etc. Parce que l'APA, comme vous le savez, si vous avez droit, vous pouvez aussi passer par les services du conseil départemental. Et à ce moment-là, le conseil départemental passe des conventions avec des services spécialisés dans le domaine pour venir en aide à votre personne à domicile. Et aussi, si vous avez votre personne que vous préférez ou le membre de votre famille, eh bien, vous allez demander au service du conseil départemental, eh bien, de l'organisme qui a été retenu pour prendre en charge l'APA, hein, l'aide pour votre famille, eh bien, vous dites que vous avez une personne qui le fait, et à ce moment-là, ces services-là, eh bien, embauchent votre membre de la famille. Comme ça, vous n'avez pas de soucis de déclaration, etc. Hein? Alors, peut-on utiliser l'APA ou la PCH pour payer un salarié ou un aidant familial? Bien, c'est ce que je vous dis. Hein? Vous touchez l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. Attention, là, je suis en train de parler de l'APA. Ne confondez pas avec l'ASPA que j'ai parlé tout à l'heure. Hein? Je vous ai dit, quand je parle de l'APA, il n'y a pas le S dedans, là. L'APA. L'APA, c'est aide personnalisée autonomie. Et l'ASPA, c'est l'argent que tu touches si tu gagnes trop petit peu par rapport à votre retraite. D'accord? Là, nous parle l'APA, là, IED, là. L'APA peut être utilisé pour rémunérer une aide à domicile ou payer un prestataire de service, comme je vous l'ai dit. Par exemple, si vous avez droit à l'APA, le conseil départemental, comment on touche l'APA? Ben, globalement, hein, vous faites une demande auprès du conseil départemental. Le conseil départemental envoie une personne spécialisée dans le domaine médical pour voir si vous pouvez bénéficier. On vous classe dans des grilles, GIA, GIA1, GIA2, des groupes de GIR. Eh bien, à ce moment-là, à partir du moment où le conseil départemental vous a classé dans ces groupes, eh bien, c'est là que vous avez à temps 2 égale à temps d'argent. Et ce temps d'argent, eh bien, vous avez la possibilité de payer vous-même une aide à domicile ou bien alors payer un prestataire de service. Ce prestataire de service, il y a des conventions passées par le conseil départemental. Vous allez vous voir, et il vous donne d'ailleurs, le conseil départemental vous donne la liste des prestataires. À ce moment-là, si vous ne voulez pas qu'une personne étrangère vienne vous aider et que vous avez de la famille qui ne travaille pas, eh bien, vous dites à ces prestataires que vous préférez que ce soit une personne, et si elle réunit les conditions, eh bien, ces services-là, eh bien, embauchent carrément cette personne pour vous aider. Voilà. Vous pouvez rémunérer n'importe quelle personne en tant qu'aide à domicile, sauf si cette personne est la personne avec laquelle vous vivez en couple. Cette personne sera alors employée en tant qu'aide à domicile et vous devenez particulier employeur. Vos démarches de déclaration des salaires USAF doivent être réalisées au moyen du CESU déclaratif. C'est pour ça que je vous dis, si vous embauchez vous-même, vous avez la possibilité, vous avez votre forfait, votre montant qu'on vous octroie, qu'on vous donne, mais vous pouvez déclarer qui vous voulez. Mais par contre, après, il faut être en mesure d'aller faire les déclarations sur l'USAF. D'accord ? Vous pouvez également, grâce à l'APA, payer un service prestataire d'aide à domicile agréé, association ou entreprise de service à la personne. Hein ? C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, dans ce cas, vous réglez une facture au prestataire. Donc ça, c'est les prestataires qui préparent pour vous les associations ou les entreprises d'aide à domicile. D'accord ? Alors donc, si vous avez besoin des renseignements complémentaires à ce sujet, ou bien vous n'avez pas été éclairé, eh bien, on me demande aussi, est-ce que l'ASPA et la pension de retraite peuvent être cumulées ? Il est possible de cumuler, mais la retraite de base et la retraite complémentaire entrent dans les ressources retenues dans la limite d'un plafond pour bénéficier de l'allocation solidarité aux personnes âgées. Hein ? Vous pouvez cumuler les deux, mais ça rentre en considération. Si le montant des deux retraites ne dépasse pas le plafond de ressources, l'ASPA et CRVI, et si c'est ce montant dépasse le plafond, l'ASPA peut être soit réduite, soit ne pas pouvoir être versée. Donc, faites attention si vous cumulez l'ASPA avec pension de retraite. Hein, voilà. Alors, le montant de l'ASPA et conditions pour en bénéficier, l'ASPA ex minimum vieillesse, que je vous ai parlé tout à l'heure, a été revalorisé au 1er janvier de l'année de 5,3% et s'élève désormais à 1012,02 € par mois pour une personne, mais c'est une allocation différentielle, c'est-à-dire qu'elle vient compléter d'autres ressources pour arriver à un plafond de 1012 € pour une personne. D'accord ? Et pour un couple, vos ressources doivent être inférieures à 1853,92 €. Il faut toucher moins de 1880. Pour un couple, vos ressources doivent être inférieures à 18853,92 €. C'est-à-dire sur vos impôts, sur votre revenu fiscal de référence, vous ne devez pas toucher plus de 18853,92 € pour toucher les allocations de l'ASPA. Hein, d'accord ? Voilà, le minimum vieillesse. Voilà pour ce qui est de cette situation. Complémentaire santé solidaire, qu'est-ce que c'est ? La complémentaire santé solidaire est une aide pour payer vos dépenses de santé. Vous y avez droit si vos ressources sont modestes. Voilà, on y revient sur les histoires ressources modestes. C'est-à-dire qu'il faut que votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain montant. D'où l'importance, même si vous ne payez pas d'impôts, de bien faire votre déclaration d'impôts. Selon vos ressources, le complément santé solidaire ne vous coûte rien, 0 euro, ou bien 1 euro. Vous coûte moins de 1 euro par jour et par personne. La complémentaire santé solidaire peut couvrir l'ensemble de votre foyer. Comment la complémentaire santé solidaire vous aide-t-elle? La complémentaire santé solidaire vous aide. Vous ne payez pas le médecin, le dentiste, l'infirmier, le kinésithérapeute, l'hôpital, vos médicaments. Et vous ne payez pas, dans la plupart des cas, vos problèmes dentaires. On dit dans la plupart des cas parce que parfois, au niveau dentaire, on vous donne la base, on vous rembourse la base, mais si vous voulez un peu plus chouette, un peu plus chic, un peu plus cher, un peu plus les matériaux un peu plus chers, eh bien, c'est selon le cas. On rembourse vos lunettes, pareil. Si vous voulez des lunettes de base, c'est remboursé 100%. Si vous voulez du luxe, eh bien, vous payez le complément. Vos prothèses auditives et vos dispositifs médicaux, c'est-à-dire les fauteuils roulants, etc. Attention, le médecin ne peut pas vous demander de dépassement d'honoraires, sauf si vous avez des demandes particulières comme des visites à domicile non justifiées. Qui peut demander la complémentaire santé solidaire? Pour demander la complémentaire santé solidaire, vous devez bénéficier de l'assurance maladie et ne pas dépasser la limite maximum de ressources. Alors, la complémentaire santé solidaire, si vos ressources sont modestes, l'assurance maladie peut vous aider pour vos dépenses de santé avec la complémentaire. Par exemple, pour une demande faite en janvier 2024, la période de référence pour la prise en compte des ressources court du 1er décembre 2022 au 30 décembre 2023. Si vous y avez droit, elle ne vous coûte rien ou coûte moins de 1 euro par jour et par personne. Quelles sont les ressources à déclarer? Les ressources ne sont pas seulement les sommes qui figurent sur l'avis d'imposition. Ce sont toutes les sommes perçues. Elles comprennent les revenus, comme par exemple les salaires, les pensions de retraite, les pensions alimentaires, les aides financières régulières, y compris l'allocation et les dons d'argent, les gains au jeu, etc. Pour plus de précision, vous allez sur votre site amélie.fr, vous allez pouvoir trouver si vous avez droit ou pas. Il y a même un simulateur qui vous permet de savoir si vous pouvez toucher ou pas, ou si vous avez droit ou pas à la complémentaire santé solidaire. Le plafond de ressources applicable au 1er avril 2024, il y a en métropole, je ne vais pas donner tous les détails en métropole, et pour la Réunion, le plafond de ressources applicable au 1er avril 2024 pour les départements d'Outre-mer et Mayotte, eh bien, le nombre de personnes composant le foyer, une personne, il ne faut pas dépasser le plafond annuel de 11 315, deux personnes, 16 972, trois personnes, 20 366 et quatre personnes, 23 760. Au-delà de 4 personnes, vous rajoutez plus de 4 526 euros par personne supplémentaire. Donc, je pense que si quelqu'un ne touche pas beaucoup d'argent, normalement, il ne doit pas payer du tout. La complémentaire de santé solidaire est revenue de solidarité active, le RSA. Si vous percevez le RSA, vous et les membres de votre foyer avez droit à la complémentaire santé solidaire sans participation financière. Donc, je parlais donc à un jeune hein, qui n'avait pas fait sa complémentaire santé solidaire. Eh bien, comme il touche le RSA, il ne participe pas. Depuis le 1er janvier 2022, cette attribution est automatique, sauf opposition expresse de votre part. Désormais, lorsque vous demandez le RSA à partir du site CAF, la demande de complémentaire santé solidaire est transmise automatiquement à votre caisse d'assurance maladie, sauf opposition de votre part. Donc, ce petit jeune qui m'a dit qu'il n'a pas la complémentaire santé solidaire, ben je suis étonnée parce que pour le RSA, si vous avez le RSA, c'est automatique. Si vous n'avez pas utilisé un service en ligne pour demander le RSA, eh ben, votre caisse d'assurance maladie reviendra vers vous une fois que le RSA vous aura été accordé afin que vous puissiez bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Si vous êtes déjà bénéficiaire de RSA et n'avez jamais demandé la complémentaire santé solidaire, n'hésitez pas à faire la demande sur le compte Amélie ou à transmettre à votre caisse d'assurance maladie le formulaire S3711 pour avoir compléter les informations concernant votre foyer, compléter la rubrique choix de l'organisme complémentaire, dater et signer le document. Parce que ce jeune m'avait dit d'ailleurs qu'il ne peut pas aller chez Amélie. Bon, ben, s'il ne peut pas encore aller sur Amélie, je lui ai donné le formulaire S3711, et ben, il remplit, il envoie à la caisse. Vous n'avez pas à remplir la déclaration de ressources, d'accord? Si vous touchez le RSA. Alors, si vous avez besoin de ce formulaire, conseil@radioarc-en-ciel.re. la complémentaire santé solidaire et allocation de solidarité aux personnes âgées, eh bien, depuis le 1er avril 2022, si vous percevez allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, vous n'avez pas exercé d'activité professionnelle les 3 mois civils qui précèdent votre demande, vous avez droit à la complémentaire santé solidaire avec participation financière. Vous devez en faire la demande avec le formulaire S3711, demande de complémentaire santé solidaire. N'oubliez pas, vous avez un droit, hein. Vous n'avez pas à remplir la déclaration de ressources, d'accord ? Il vous suffit d'aller sur Amélie et puis de remplir la complémentaire santé solidaire et vous allez voir qu'est-ce qu'on vous demande. Voilà. Alors, je vais quand même faire un petit help, une offre de service pour les travailleurs indépendants en difficulté. Vous êtes travailleur indépendant, vous rencontrez des difficultés financières, médicales, familiales ou sociales et vous ne savez pas à qui vous adresser. Help, vous avez de quoi noter? Help, vous allez sur le site internet, entre guillemets, vous mettez H-E-L-P, Help, est là pour vous aider. Ce nouveau dispositif associatif USAF, les allocations familiales, l'assurance retraite et l'assurance maladie, qui se mobilisent pour favoriser un meilleur accès aux droits, aux soins et aux aides sociales. N'oubliez pas, vous avez Help, qui offre un service pour les travailleurs indépendants en difficulté. En pratique, vous devez dans un premier temps répondre à un questionnaire unique en ligne. Une fois que vous l'avez rempli, l'organisme local ou régional concerné par votre demande étudie votre situation. En fonction de son domaine de compétences, recouvrement, famille, retraite ou maladie, il détermine les actions à mettre en place pour vous aider au mieux. Vous êtes informé par mail à chaque étape de l'avancement de votre demande. Alors, par exemple, cette personne que je connais là, qui a des difficultés parce que son mari touche très très peu, elle n'a pas fait de demande dans les temps, les allocations ont été coupées, enfin bref, vous allez sur Help et vous essayez d'avoir si vous pouvez avoir de l'aide financière.
La vie vraiment c'est par envie. La zon la tuer la patrie. Nous pour vivre en saloperie. M'y connaît pico ça faut dire. Ça la vie la fini pourrie. Zordi si m'y vive la vie vraiment c'est par envie.
Alors nous avons la question de des questions de notre auditrice, mais nous allons lire la première. Et sur la deuxième également. Hein. Donc la première, elle me dit, elle me répond hein, de jeudi dernier, j'ai bien écouté comme d'habitude tous les jeudis. Les dons, c'est bien comme vous dites. Ça existe toujours en fonction. Voilà, les dons. Vous savez bien, la réduction des dons aux associations que j'avais parlé jeudi dernier, elle vient confirmer que c'est bien comme ça. Mais merci hein, de votre attention et que j'avais parlé d'elle jeudi dernier. Elle me dit, j'aimerais savoir la ligne pour mettre le montant pour ma fille de plus de 25 ans. En études, qui paie ses dépenses par an plus de 25 000 euros. Alors, elle me parle aussi de démarches à faire. Pour comment ça j'ai envoyé une demande postale à mon employeur. Bon, là, je vais traiter cette question-là la prochaine fois. Là, je traite simplement sa réponse concernant l'aide pour les impôts. Alors, donc, pour ce qui concerne les impôts, dans quel cas déclarer la pension alimentaire sans justificatif 2023? Alors, la déclaration d'une pension alimentaire majeure sans justificatif pour 2023, la prise en charge d'une fille ou d'un fils majeur vivant encore chez ses parents et sans ressources, aussi appelée pension alimentaire forfaitaire ou pension alimentaire versée en nature, est déductible pour le ou les parents sans justificatif. 3 068 euros si l'enfant majeur est célibataire, 7 936 euros si l'enfant majeur hébergé est marié ou uni par un PACS, et 1984 euros par an si ceux-ci sont concubins. Les enfants aussi ainsi déductibles, les sommes ainsi déductibles doivent correspondre aux dépenses de nourriture et de l'hébergement. Si l'enfant majeur n'a été hébergé chez son ou ses parents qu'une partie de l'année, la somme est déductible au prorata de l'année de la présence de l'enfant. Mais là, ce n'est pas son cas. Dans quel cas, demande-t-elle, déclarer la pension alimentaire sans justificatif en 2023 ? Le montant de la pension alimentaire forfaitaire déductible et à déclarer le par le ou les parents, case 6EL pour le premier enfant, case 6EM pour le deuxième, case 6EN pour le troisième, case 6EQ pour le quatrième et case 6EX pour le cinquième enfant et les suivants. Alors, les cases XN, XEQ et XE n'existent que dans le cadre de déclaration en ligne. Les cases XEL et XEM existent dans les deux modalités de déclaration feuille ou bien en ligne. Alors donc, si elle n'a pas bien compris tout ça, la déduction de l'aide à l'enfant majeur sans justificatif, eh bien, le montant maximum de la déduction atteint 6 674 euros pour le calcul de l'impôt 2024 quand l'enfant bénéficiaire ne vit pas sous le toit de ses parents. Cette dépense devant être justifiée dans votre déclaration. Si les parents logent leur enfant sous leur toit, ils ont la possibilité aussi de déduire 3 968 euros. Et jusqu'à 6 674 euros, ils peuvent prouver leur dépense. Si jamais ils peuvent prouver la dépense, c'est 6 600. Et s'ils ne peuvent pas, 3 968 euros. Alors vous voyez que même les enfants qui vivent chez leurs parents, sous le toit de leurs parents, ont la possibilité de déduire leur impôt, de leur impôt les dépenses pour leurs enfants. Et donc, n'oubliez pas, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le revenu fiscal de référence baisse. Quand vous avez des enfants chez vous à charge qui ne travaillent pas, que vous nourrissez, que vous logez, vous avez la possibilité de déduire sans justificatif. Vous n'avez pas à justifier la pension alimentaire. Par contre, vous avez l'obligation de fournir les justificatifs si vous dépassez le montant qui vous est autorisé, par exemple, si vous dépensez jusqu'à 6 674 euros. Voilà. Donc, notre émission se termine. Hein. Eh bien, je dis merci à notre auditrice. Hein. Je vais quand même dire son prénom, Hélène. J'ai dit ça vite fait. Hein. Alors, merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute attentive. En tout cas, Conseil des maillages se termine. Le numéro de portable, c'est le 06 92 67 73 35. Le téléphone fixe 02 62 41 66 16. L'adresse email conseil@radioarc-en-ciel.re. N'hésitez pas à envoyer des mails. Et puis notre adresse postale 18 bis rue Montreuil 97 400 Saint-Denis. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Mon train va se garer. Allez, au revoir. Au revoir à jeudi prochain. Merci Didier. Merci à toute l'équipe. Au revoir.